Donc on va le relire en entier. Hein, on va prendre, ou en tout cas jusqu'au verset 17. On va lire on va relire ce chapitre de Colossiens. Donc si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Puis verset 5, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Voilà, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. On a vu ça aussi la semaine dernière, et Jacques en a parlé ce matin. Puis ce matin, on verra, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voilà, ce matin on verra le verset 15 à 17. Mais je reviens sur la notion du vieil homme et de la chair, quand j'ai expliqué la semaine dernière. J'ai fait une petite erreur dans une illustration, et c'est pour ça que j'ai retravaillé cette semaine sur cette notion du vieil homme et de la chair, pour que vous compreniez bien que c'est deux choses différentes, et ça peut nous faire avancer aussi dans notre compréhension biblique. Donc j'avais noté que le vieil homme va revenir seulement trois fois dans la parole de Dieu. Romains 6, 6, Éphésiens 4, 21, et dans le passage qu'on a vu la semaine dernière dans la prédication. Le vieil homme, comme je l'ai expliqué, c'est avant la conversion. Ce terme désigne quelque chose de complètement usé et inutile. C'est bon seulement à jeter aux ordures, littéralement. Et tout ça, c'est quand on refusait que Christ vive en moi et que le péché pour moi n'était pas si sale que cela, parce qu'on n'avait pas compris vraiment la notion du péché. Donc le vieil homme, c'est une personne qui est non régénérée. C'est une personne qui n'a pas accepté Christ dans sa vie. Donc c'est pour ça que j'ai marqué le vieil homme, c'est avant la conversion. Lorsqu'on se convertit, on se dépouille de ce vieil homme. Et Romains 6, 6 nous dit clairement que ce vieil homme est quoi ? Mort. Et donc, quand je me repens de mes péchés et que j'accepte Christ, le vieil homme meurt pour que un nouvel homme prenne place en moi par la puissance de l'Esprit. Donc ce matin, si tu es un enfant de Dieu, le vieil homme est mort. Donc mon illustration de la semaine dernière n'était pas bonne. Quand j'ai dit que le vieil homme peut vous accrocher encore votre nouvel vêtement de la nature, de la nouvelle nature. C'est faux, parce que s'il est mort, il ne peut plus vous accrocher, il est mort, il est enterré, c'est fini. Donc, mon illustration la semaine dernière n'était pas juste. Et en plus, le temps du verbe dépouiller et revêtir en grec évoque un résultat accompli. C'est fini, c'est définitif. Donc, le jour de ma conversion, j'étais dépouillé définitivement du vieil homme et revêtu définitivement de l'homme nouveau. Et un auteur a dit ceci. Ne continuez pas à vivre comme si vous étiez ce vieil homme, car ce vieil homme est mort. Il est mort, une fois pour toutes. Et il avait rajouté ceci, notre nouvelle vie de chrétien ne constitue pas une ancienne vie rénovée, mais une vie toute nouvelle que Dieu a créée, et on voit ça dans 2 Corinthiens 5, 17. Donc voilà, le vieil homme, aujourd'hui, c'est un enfant de Dieu, c'est fini. Ne dis pas ma vieille nature, ma vieille ici, c'est fini, il est mort. Par contre, maintenant, il y a un autre mot qu'on utilise, le mot la chair. Et la chair, elle est avant et après la conversion. On est avec et on va mourir avec aussi. Donc c'est quelque chose de différent. La chair, elle est en accord avec le vieil homme. C'est pour ça que quand on a le vieil homme et la chair, tout ce que la chair fait, il n'y a pas d'opposition. Par contre, on voit dans Galates 5 que maintenant qu'on a un nouvel homme, elle est en désaccord justement avec l'homme nouveau, la chair. Et c'est pour ça qu'il y a ce combat entre l'esprit et la chair, qu'on voit bien dans Galates. Et puis dans plusieurs passages, hein, la chair, le mot chair revient à plusieurs reprises. Pas seulement pour dire l'aspect physique, mais aussi pour montrer cet aspect de, d'opposition à ce que Dieu veut dans notre vie. Donc j'avais noté ça, comprenons ce que la chair, ce qu'elle veut dire. Donc elle revient 116 fois dans le Nouveau Testament, plusieurs mots lui sont attribués, le corps physique corruptible et l'aspect moral non régénéré et qui avait été éduqué par le vieil homme. L'homme nouveau vit dans un corps corruptible. Ce corps a des faiblesses physiques et morales. La chair est en accord avec le vieil homme pour celui qui n'a pas Christ. Pour le croyant, la chair est un combat spirituel parce qu'elle vient en opposition à cette nouvelle création que je suis. Et c'est le Saint-Esprit qui donne à l'homme intérieur l'énergie nécessaire pour remporter la victoire sur la chair. On voit ça en Galates 5. L'avantage, c'est que nous ne sommes pas des victimes de la chair. Gardez bien ça en tête. On n'est pas des victimes de la chair. L'homme nouveau est vainqueur car Christ vit en moi. La chair veut s'attacher aux choses terrestres, alors que l'esprit veut s'attacher aux choses célestes. Nous avons le choix et la force de renoncer aux désirs de la chair et de s'attacher aux choses d'en haut. Voilà. Et donc ensuite, l'homme nouveau, c'est à la conversion et trois autres passages qui viennent aussi faire référence à cela. Voilà, je voulais juste faire une petite... revenir dessus et m'excuser de mon illustration qui n'était pas forcément juste. Voilà. C'était vite, rapide. Mais parce qu'il y a un autre message qui nous attend. Donc on va voir ce que la parole veut nous enseigner ce matin dans Colossiens 3, au verset 15 et 17. Qui c'est qui aime bien être troublé? Vous savez, être troublé, agité au fond de lui. Qui c'est qui aime bien être comme ça, le matin qu'on se lève? Personne? Vous savez, ces journées où on est frustré parce qu'on n'a pas cette paix au fond de nous. Non, personne n'aime se lever comme ça, être déjà en colère et pas avoir cette paix intérieure. Non? Bon. Qui aimerait maintenant, je vous pose un autre, et c'est le défi de ce matin et le défi de votre vie jusqu'à que Christ revienne. Écoutez bien ça. Qui c'est qui n'aimerait louper aucun jour dans la lecture et l'étude de la parole jusqu'à ce que Christ revienne me chercher? Qui c'est qui aimerait avoir ça tous les jours à partir de maintenant? Je ne louperai plus aucune journée dans la parole de Dieu jusqu'à ce que Christ revienne me chercher. Ou encore, qui a envie de faire la volonté de Dieu à chaque instant? C'est vraiment votre désir. Henri, oui, c'est bien. Merci, Henri. D'autres ont envie de faire la volonté de Dieu à chaque instant? Que tout ce que tu fais, tu sais sans hésitation que c'est ce que Dieu veut. Moi, c'est mon souhait, c'est mon désir de faire ça. Mes amis, la paix de Christ, la parole de Christ et le nom de Christ peuvent faire partie de notre vie quotidienne. Jésus-Christ veut que tu aies sa paix, que tu lises sa parole et que tu fasses sa volonté en son nom. Et je vous promets que cela, c'est possible. Ces trois choses qu'on va voir ce matin, c'est possible. Mais il va falloir que vous ouvriez bien vos oreilles. Ce matin, j'ai besoin de toute votre attention. Pas une seconde où on décolle à droite ou à gauche, ou qu'on regarde s'il y a un moustique là-haut ou si mon plat est en train de cuire. Il faut que pendant les 30 minutes, vous soyez concentrés sur ce que la parole de Dieu va vous dire. Parce que je suis convaincu que le message de ce matin, pas que ce que Florent va vous dire, quoi que je vais vous dire à travers la parole de Dieu, mais que ce que la Bible veut nous enseigner ce matin est très très important pour que ces trois choses, avoir la paix quotidienne dans notre vie, ne plus jamais louper un seul jour de ma vie dans la parole de Dieu et faire ce que Dieu veut au quotidien, c'est possible. Mais pour cela, il va falloir ouvrir nos deux oreilles et laisser notre intelligence et notre cœur soumis à ce que la parole de Dieu veut m'enseigner ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à relever ça? Parce que nos vies, mes amis, elles sont bien souvent en désobéissance par rapport à cette paix qui ne règne pas dans notre cœur, à cette parole qui est prise à la légère. Et donc, il est évident que si on n'a pas la paix, que si la parole de Dieu est prise à la légère, il est évident que chaque jour, vous n'allez pas faire la volonté de Dieu. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Tu peux passer? On va commencer avec la... Voilà, j'ai fait ce schéma pour que vous gardiez dans la tête ce qu'on va voir ce matin. Si j'ai la paix de Christ, alors je vais pouvoir lire et étudier la parole de Christ, mais c'est aussi réciproque. En étudiant la parole, si on étudie la parole de Dieu et qu'on l'étudie, alors on va avoir la paix de Christ. Par contre, si on n'a pas les deux là, ça c'est impossible. Tu peux faire tout ce que tu veux, ça tu n'y arriveras pas au quotidien. On va commencer avec ça. La paix de Christ, verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'est l'idée de faire un pacte entre deux pays. Vous savez, quand il y a deux pays qui sont en guerre, pour que la guerre s'arrête, il faut faire une alliance, il faut faire un pacte, un traité. C'est un peu cette idée de faire un traité pour qu'il y ait le repos et la sécurité entre les deux pays. Ce traité de paix, toi et moi, on l'a signé. En tout cas, moi, je l'ai signé. Je ne sais pas si toi, tu l'as signé, mais moi, je l'ai signé, ce traité de paix. Parce qu'un jour, j'étais en guerre contre Dieu. de refuser que Dieu dirige ma vie. Je refusais de croire que Dieu existait. Et j'étais en guerre. Ennemi de Dieu, la Bible nous appelle. Mais un jour, j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai accepté que Christ règne dans ma vie. Et ce jour-là, j'ai fait un pacte avec Dieu et je suis devenu ami de Dieu. Et j'ai fait la paix avec Dieu. Peut-être ce matin, tu es un ennemi de Dieu. Ce n'est pas de venir à l'église le dimanche matin que tu es un ami de Dieu. Peut-être ce matin, tu es un ennemi de Dieu. Et tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Et tu as besoin de faire la paix ce matin. Parce que mourir en tant qu'ennemi de Dieu, c'est la chose la plus dramatique qui peut exister. Et j'espère que ce matin, tu as vraiment fait la paix avec Dieu. Sinon, fais-la maintenant. Fais-la maintenant dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi de ne pas vouloir que tu règnes dans ma vie. Je veux t'accepter. Ça paraît tellement simple ce que je suis en train de dire. Mais c'est tellement important de faire la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est un acte définitif. Par contre, la paix de Christ, la paix de Dieu, c'est une attitude que nous avons lorsque nous allons faire des choix. Vous savez, quand vous avez un choix, souvent, je dirais financier. Tous, on a déjà eu des choix financiers à faire. Et des fois, vous savez, on est un peu troublé. On n'a pas cette paix intérieure. Pourquoi ? Pourquoi on n'a pas cette paix intérieure ? Et on va essayer de voir ça. Ou, vous savez, lorsqu'il y a une épreuve qui arrive et qui nous trouble un peu, on n'a plus cette paix intérieure. Pourquoi ? Pourquoi j'ai plus cette paix intérieure ? Cette paix de Christ, le monde ne peut pas la comprendre. Et elle dépasse le raisonnement humain. La question, c'est est-ce que la paix de Christ règne dans mon cœur ce matin ? Cette paix de Christ a besoin de régner en moi. Sinon, vous allez voir que beaucoup de vos choix ne vont pas être en accord avec ce que Dieu veut. Vous allez faire des choix, croyant qu'ils sont bons au départ. Mais au fond de vous, comme si vous avez quand même l'esprit de Dieu, vous le faites ce choix-là, mais vous savez que ce n'était pas forcément celui-là qu'il fallait faire aujourd'hui. Et des fois, il y a des conséquences derrière. Cette paix de Christ a besoin de régner en moi. Sinon, beaucoup de mes choix ne vont pas être ce que Dieu veut. Et l'épreuve va vous déstabiliser à chaque fois. Chaque fois que vous allez avoir une épreuve, vous allez être déstabilisé parce que la paix de Dieu ne règne pas dans votre cœur. Lorsque la paix règne dans un pays, qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Prospérité ? Il se passe quoi ? Stabilité ? Ça fait partie des pays les plus puissants au monde, souvent, quand il y a la paix déjà dans un pays. Ça fait du bien. Et comment la paix règne dans un pays ? Comment on arrive que la paix règne dans un pays ? Ouais. En fin de compte, c'est... Je parle pas d'une paix qui règne avec un État totalitaire qui dit c'est comme ça et ça bouge pas et que là il y a la paix. Bon, j'appelle pas ça une vraie paix. Moi, je parle d'une vraie paix où tout le monde est en accord avec ce qui se passe. Je pense tout simplement c'est que il y a eu discussion et puis il y a eu l'État, les chefs politiques qui donnent des règles dont le peuple en général, je dirais, est en accord. Et si chacun se plie à ces règles, comme disait Patrick tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'un peu, pour nous, la paix de Christ en nous, c'est à peu près pareil. Christ nous donne des choses à faire, à obéir, des règles simples. Et dès qu'on ne respecte plus ces règles ou ces principes que la parole de Dieu nous enseigne, cette paix en nous ne peut plus être là. Parce qu'on n'est plus en accord avec ce que Christ nous demande de faire. Et on va voir qu'un de ces principes de base, et c'est vraiment de base que je vais voir ce matin, ça va être celui-là, qui est tellement important. Tellement important. Vous avez noté, donc, si j'obéis et respecte ce que Christ me dit, cette paix règnera en moi. Lorsque je m'éloigne des principes de Dieu, premièrement, je pêche, et deuxièmement, cette paix ne règne plus en moi. Lorsque la paix de Christ ne règne plus dans ma vie, il m'est difficile de lire et de comprendre ce que la Bible dit. Il m'est impossible de louer Dieu d'un cœur sincère. Alors, deux questions pratiques. La première, comment la retrouver si je ne l'ai pas ce matin ? Et la deuxième, ce sera, et comment l'entretenir ? Alors, comment la retrouver si je ne l'ai pas ce matin ? Ben, c'est tout simple, confesser son péché, et puis prendre du temps dans la prière. Prendre du temps dans la prière. Dire, Seigneur, c'est vrai que je ne fais pas ce que tu veux. Tous les choix que je fais à chaque instant de ma vie, je ne te consulte pas. Parce que je n'ai pas été éduqué comme cela. Parce que mon éducation, c'est d'avoir toujours fait les choix que moi, je voulais. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux apprendre. Je sais que je vais encore échouer peut-être, mais je veux apprendre à que chaque choix que je fais, ça soit fait par toi. Et je veux cultiver cette paix par la prière et par l'étude de la parole de Dieu. Et le deuxième terme, c'est verset 16. Donc que la parole de Christ, donc on a vu la paix de Christ, maintenant que la parole de Christ, verset 16, demeure en vous dans toute sa richesse. Est-ce que la parole de Dieu se sent à la maison chez toi? Est-ce que la parole de Dieu se sent à la maison dans votre vie? Est-ce que la parole de Dieu est la résidence principale ou secondaire dans ta vie? Et pour certains, est-ce que la parole de Dieu est un SDF? Pour certains chrétiens, souvent la parole de Dieu peut être un SDF. Elle n'a même pas son domicile chez la personne. Mes amis, Christ veut que sa parole réside en nous. Que chaque jour, elle ait sa place. Vous savez, ce matin, je vais être exigeant, mais sans être aussi exigeant que le Seigneur le veut. Mon exigence est très limitée. Celle du Seigneur est beaucoup plus grande que celle de Florent. Vous savez, il n'est pas normal qu'un chrétien ne prenne pas du temps tous les jours dans la parole. Ne prenez pas ça comme quelque chose de normal. Même si on cultive, que cela n'est pas si grave. Parce qu'on a cultivé ça depuis notre enfance. Même des fois, vous avez eu des parents chrétiens, donc vous n'avez pas vu que vos parents prenaient l'habitude de lire la parole de Dieu. Donc vous, vous grandissez avec cela, ce n'est pas grave. Mais c'est un mensonge du diable. Il a réussi à faire ça, à rentrer dans des foyers chrétiens, à montrer à des parents chrétiens qu'il ne fallait pas qu'ils lisent la parole de Dieu tous les jours, ce n'est pas grave. Et les enfants voient ça, et c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Il faut stopper cette hémorragie dans nos églises. Il faut stopper ça. Si on veut voir des églises grandir, si on veut voir des véritables conversions, si on veut voir des progrès dans notre vie, si on veut voir des changements de caractère, de comportement, il faut que ça change. Donc arrêtons de dire, ce n'est pas grave. Vous savez, dans une maison ou un appart, la place devient limitée. Lorsque je vais à Ikea, ma femme aime beaucoup Ikea, mais moi je commence à aimer Ikea aussi. Et je vois des meubles, j'aimerais bien avoir ce meuble, il est pas mal. Mais la réalité me rattrape. Je sais le nombre de mètres carrés qu'il y a dans chez moi et je sais que ce meuble-là, il ne rentrera pas. Donc, je sais très bien que je vais sortir de Ikea sans ce meuble-là. Mais si la parole de Dieu ne demeure pas en moi ou en toi, c'est parce qu'il n'y a plus la place pour elle. Il y a d'autres choses dans ta vie qui ont pris cette place-là. Et je n'ai pas besoin de les énumérer, tu les connais. Et si tu ne les connais pas, je te donne un challenge. Demande à ton mari ou à ta femme ou à tes enfants ce qui prend plus de temps que la parole. Et t'inquiète pas, ils vont te le dire de suite. T'as pas forcément envie de l'entendre. Hein, on n'a pas forcément envie de l'entendre. Et puis quand on l'entend, on n'a pas forcément envie de l'accepter. Et puis ensuite, il faut changer. Hein, ça fait trois choses déjà. Et mes amis, celui dont tu dis qu'il est le centre de ta vie. Tu sais, tu aimes dire ça. Jésus-Christ est le centre de ma vie. Je demande ce matin à travers sa parole de t'engager jusqu'à la fin de tes jours à ne plus manquer un seul jour dans la parole de Dieu. Prends pas cet engagement à la légère. Il te le demande. Tu dis qu'il est le centre de ta vie. Alors engage-toi jusqu'à ce qu'il revienne te chercher. À ne plus louper un seul jour dans la parole de Dieu. Et vous savez quoi? C'est possible. Je pense que c'est impossible. Bon, je pense qu'il n'a pas compris la grâce de Dieu. Ce qui me dit, mais Florence, c'est pas possible. Mon ami, Christ t'a sauvé, pourquoi? Pour que tu prennes du temps avec lui dans sa parole. Parce qu'il t'aime. C'est une question de priorité et non d'emploi du temps. Vous savez la théorie de l'emploi du temps? Pas à moi. À qui vous voulez, mais moi, vous ne me la faites pas la théorie de l'emploi du temps. C'est une question de priorité. Parce que l'argument emploi du temps, vous le sortirez au Seigneur si vous voulez. Vous allez voir ce qu'il vous répondra. C'est une question de priorité. Nous voulons ressembler à Christ et changer sans que la parole demeure en nous. Mais arrêtons, ce n'est pas possible. Mais on va voir que c'est possible ce matin. Et je suis convaincu que chacun d'entre vous, vous pouvez. Parce que le Seigneur te dit, tu peux. Tu peux lire la parole de Dieu tous les jours jusqu'à que je revienne. Et apprendre de moi. Deux questions pratiques. Comment faire pour tenir cet engagement que la parole de Christ demeure en moi? Parce que c'est ça qui nous fait peur. Hein, c'est ça. De dire, je vais m'engager, mais je sais que dans une semaine, je risque d'avoir loupé un jour. C'est ça qui vous fait peur. Mais pensez pas à cette question-là. Pensez pas à l'échec. Pensez que vous êtes vainqueur. Si vous pensez déjà à perdre, c'est normal que vous n'allez pas gagner le match. Hein. Mais si vous rentrez et vous dites, on va gagner, on va y arriver, avec l'aide de Dieu, ça va marcher. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez relever ce challenge et le tenir. Alors, la Bible nous le dit. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Je ne veux même pas développer ce mot-là, mais il y aurait tellement de choses à dire. Et puis voilà, il explique comment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Voilà le premier challenge à relever. Nous avons besoin d'un tuteur pour cultiver cet engagement et habitude quotidienne. Parce qu'il dit les uns les autres. Pour tenir ferme dans cet engagement de lire la parole de Dieu tous les jours, je pense qu'il faut cultiver cette notion de s'instruire et s'exhorter les uns les autres. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ont parfois plus de 5 ans de vie avec le Seigneur et qui n'ont jamais réussi à faire plus de 3 mois sans manquer un seul jour dans la parole. Donc tu as besoin, comme je disais tout à l'heure, d'être rééduqué dans ce domaine. Après, la question c'est, le veux-tu ? Et là, ça dépendra de toi. En tant que pasteur, ce matin, ma prière et mon... Vous savez, quand on est pasteur, des fois, on nous demande d'avoir des objectifs ou des visions pour son assemblée. Et mon objectif, vraiment mon objectif, je dirais pour cette année, et j'espère qu'elle va être plus longue, c'est que chacun d'entre vous, vous pouvez venir me voir à la fin de l'année et me dire, Florent, cette année, j'ai loupé aucun jour dans la parole de Dieu. Mes amis, je suis convaincu que vous êtes capables, vous pouvez. Et si j'ai 50, je ne sais pas, on est peut-être 50 et quelques ce matin, et qui venait me voir à 31 décembre 2009 et vous me dites, Florent, ça y est, j'étais rééduqué, je ne loupe plus aucun jour dans la parole de Dieu. Mais là, je dirais amen, et on pourra passer à un autre objectif pour l'Assemblée. Mais déjà, on va voir de grandes choses se passer ici, si chacun relève ce défi-là. Ça sera une victoire collective que j'avais noté qui va faire grandir cette assemblée, mais ça va déplaire à notre ennemi. N'attendez pas que ça soit facile. Donc le conseil pratique, c'est dans un premier temps d'avoir un partenaire de lecture biblique quotidienne pour s'instruire et s'exhorter l'un l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va se voir tous les jours, mais au moins chacun on s'engage, mais tiens, allez. Je dis à Élisée par exemple, allez, Élisée, on s'engage cette semaine à lire Timothée. Et on va lire Timothée chacun de notre côté, et puis si on se passe un petit coup de téléphone, un petit email, ou à la fin de dimanche d'après-midi, bon alors, t'as vu quoi dans Timothée? T'as pu tout lire? Ouais, ok, c'est bon. Allez, semaine prochaine, et on avance comme ça. Et on s'encourage. Pas besoin de faire ça avec 4-5 personnes, une seule, un partenaire. Et on s'exhorte et on s'instruit là-dedans. Et en tant que pasteur, je trouve cela indispensable pour la croissance d'une assemblée. Si vous regardez bien le texte biblique aussi, on va continuer pour cette notion de... je vais aller un peu plus vite. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, pardon, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Donc si vous voulez aussi continuer que la parole chantée, je veux dire, de manière juste et honnête le matin, il faut que cette parole de Christ demeure en vous. Les gens aujourd'hui s'intéressent plus à des performances musicales qu'au texte biblique. Vous savez, un chanteur n'a pas davantage le droit de chanter une erreur biblique qu'un prédicateur. Vous savez, on va des fois être plus conciliant ou plus gentil avec un texte d'un cantique qu'avec un prédicateur quand il va dire une erreur biblique. Et c'est faux. C'est comme un chant là qui est très beau qu'on chante. Je voulais juste faire quand même une parole. Si je vous dis, et si j'avais l'éternité? Je cantique. Et si j'avais l'éternité? Mais moi, je ne dis pas si j'avais l'éternité. Moi, j'ai l'éternité. Je ne sais pas, peut-être que vous ne l'avez pas, mais moi, je l'ai. Et on chante, et si j'avais l'éternité, je pourrais. Mais non, j'ai cette éternité, mes amis. Et vous voyez, il y a des textes bibliques, des chants qui sont intéressants, qui sont jolis à chanter, j'ai pas de problème avec ça. Mais qu'est-ce qu'on regarde? C'est pour ça que c'est important de regarder la profondeur des chants. Et si vous voulez être sûr de chanter des choses à la fois justes et profondes, alors mettez de la musique sur des textes bibliques. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper déjà. Et vous en êtes capable. Je sais qu'on a de bons musiciens. Vous êtes capable de mettre de la bonne musique sur des cantiques, sur des psaumes ou des passages de la parole. Nos chants ne doivent pas être l'étalage de nos talents, mais une démonstration de la grâce de Dieu dans notre cœur. Mais tout cela, pour qu'on en arrive là, il faut que la parole de Christ demeure en moi dans toute sa richesse. La parole de Christ demeure en moi parce qu'elle donne de la valeur à ma vie et me permet de faire la volonté de Dieu au nom de Christ. Et on arrive, suite logique, la paix de Christ, la parole de Christ, et verset 17, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Tout faire au nom de Jésus. Est-ce que cette semaine, tu as tout fait au nom de Jésus? Est-ce que tout ce que tu as fait, ça a été en conformité avec ce que Christ a voulu pour toi? As-tu fait ça cette semaine? Pas il y a 15 jours, cette semaine. Même hier. Est-ce que hier, tu as fait ce que Christ a voulu? Dans le but qu'il soit glorifié par nos paroles et nos actes. Vous savez, des fois, on va essayer de faire des choses sous couvert du nom de Jésus, mais sans que lui approuve. Vous savez, quand Jésus vient voir ces gens, ils sont comme ça, ils pourraient venir nous voir ce matin. Il dit, toi, tu as chassé des démons en mon nom. Toi, tu as prophétisé en mon nom.
Toi, tu as fait des miracles en mon nom. Toi, tu as prêché en mon nom. Toi, tu as fait de la musique en mon nom. Toi, tu es allé évangéliser en mon nom.
C'est comme qui connaissait la parole, en tout cas. Parce que la parole de Dieu ne demeurait pas en eux. Mes amis, on peut faire beaucoup de choses sous le nom de Jésus. Mais si la parole ne demeure pas en nous, tout cela n'est pas approuvé par le Seigneur. Toi et moi, on désire faire en parole et en œuvre ce que Christ veut, n'est-ce pas? Moi, j'espère et je sais que tous ici voulaient faire ce que Dieu veut. Et avec des cœurs sincères. Je crois vraiment ça. Alors que la parole de Christ demeure en toi et en moi, dans toute sa richesse. Et vous allez voir que la paix de Christ et tout ce que tu vas faire pour Christ aura de la valeur. Et tu vas grandir et être épanoui. On va prier. Seigneur, merci pour ce texte biblique. Je sais que chaque point demanderait encore un message ou même des explications, mais je te remercie déjà d'avoir pu parler en ton nom ce matin. Seigneur, je te demande juste une chose, c'est que les gens ne considèrent pas la personnalité de Florent, mais considèrent ce que tu veux leur dire à travers ta parole. Que ce verset ne les lâche pas. Moi, je reste juste un être humain. Et on peut des fois pas, je sais, saisir ou accepter ce qu'une personnalité dit, mais ce que tu dis, je te le demande au nom de Jésus-Christ, que ça convainc des cœurs. Parce que je suis convaincu que chaque personne ici ce matin a de la valeur à tes yeux, et parce que je sais qu'ici chaque personne peut s'engager à lire la parole de Dieu tous les jours, jusqu'à ce que tu reviennes. Alors Seigneur, touche les cœurs, et fasse que chaque personne prenne ce challenge à cœur. C'est même une obligation, je dirais, pour notre vie, si on veut être changé, si on veut avoir la paix en nous, et si on veut faire vraiment ta volonté. Merci pour la logique de ta parole. Merci encore, Père. Amen. Mais bon dimanche à chacun. Et... s'il y en a qui veulent avoir des conseils pour ou avoir quelqu'un pour les aider à la parole de Dieu au quotidien, moi je suis là. Hein.